Bonjour Joël. Joël Herbach, qui est président de l'association Allées Sauvages, anciennement directeur de l'urbanisme à Vichy. Et on se rencontre aujourd'hui pour parler un peu de toi, de ta carrière, et également de l'activité de l'association, de ce qu'elle défend, et aussi et surtout de la rivière Allier qui t'est chère, et enfin qui est de plus en plus chère au territoire. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, peut-être te présenter, retracer un peu en quelques mots ta carrière, et puis comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à la rivière et à
D'accord.
l'association?
Alors, moi, c'est très simple. Je suis né sur l'Allier. Je suis moulinois et j'ai passé mon enfance sur le bord de l'Allier dans une génération qui était juste après celle de mes grands-parents qui, elles, passaient carrément toutes ses vacances au bord de l'Allier puisque c'était l'endroit
D'accord.
où on allait. Et donc, la rivière Allier, je l'ai bien connue. J'ai appris à nager dedans, j'ai pêché, etc. Et puis, vers mes 18 ans, dans les années 70, la rivière Allier s'est trouvée extrêmement polluée. La conséquence croisée des pollutions urbaines qui étaient encore très importantes et de la montée en puissance des pollutions agricoles, les nitrates, etc. Et donc l'eau s'est trouvée eutrophisée, toute verte avec des algues, et on nous a interdit de nous baigner, on nous a interdit de pêcher dedans,
Ah,
etc.
d'accord.
Donc en fait, quand j'ai quitté le moulin pour faire mes études, je suis parti avec cette image de l'Allier sinistrée.
Dégradé.
Voilà. Et donc j'ai fait des études d'ingénieur et d'architecture, et ensuite je me suis mis à travailler pour les collectivités, loin. J'ai commencé pour une ville de l'île de la Réunion, à gérer des territoires. J'ai travaillé pour la ville de Toulouse en architecture solaire passive, et puis ensuite j'ai travaillé comme directeur de service technique de Sallanches en Haute-Savoie, puis depuis 30 ans comme directeur d'urbanisme de Vichy, poste que je viens de quitter il y a un an seulement. Donc c'est
C'est tout
tout frais,
frais.
voilà.
Ok. Donc y a eu tu as eu alors pendant un certain temps tu as retrouvé
Alors,
l'allié et tu avais une double casquette un peu
c'est ça. J'ai retrouvé l'Allier avec un œil extrêmement différent, qui n'était plus celui du gamin qui nageait dedans, mais celui d'un professionnel qu'on avait vu d'autres, et qui en plus s'inscrivait dans une époque où la reconquête des rivières était une évidence, une évidence, mais qui n'était pas très évidente à Vichy
Ouais,
quand je suis
à
arrivé,
l'époque.
puisque à l'époque, quand je suis arrivé, je me souviens quand on a révisé le schéma directeur pour les élus de l'agglomération de Vichy, la rivière, c'était qu'une source d'ennui, c'était des zones inondables, et c'était pourquoi l'État empêche les carriers d'extraire des granulats dans la rivière.
Ouais,
Voilà. Et
d'accord.
il a fallu beaucoup travailler, beaucoup emmener les élus, y compris sur la rivière. Je me souviens, descendu en canoë avec eux sur l'agglo, pour leur montrer la beauté, la richesse, le potentiel, leur faire comprendre qu'on boit l'eau de la rivière. Enfin, beaucoup de choses comme
Ouais.
ça. Et ça a permis de changer. Et quand on regarde le schéma de directeur de 2001 de l'agglomération, tout a changé à ce moment-là. Mais on a fait des études pour démontrer, on a emmené les élus, etc. Et l'Allier est devenu, dans le discours de l'agglo de Vichy, qui s'est amplifié jusqu'au projet d'agglomération que j'ai animé en 2015, c'est devenu la colonne vertébrale du projet d'agglo, à laquelle on a même rajouté son affluent principal, qui est le Sichon. Et quand on regarde tous les projets qui sont en cours, ou qui sont voilà, dans les cartons, il y en a une bonne partie qui tourne autour de la mise en valeur de ces rivières, à la fois en termes de renaturation et à la fois en termes de valorisation urbaine.
Donc il y a un côté, alors, on recentralise le débat, il y a vraiment une approche bassin versant à large échelle, et on fait refaire rentrer, on essaie de changer la perception, et les
Voilà.
représentations de l'allié à travers les décideurs, quoi.
Tout à fait, y compris en réalisant en priorité des aménagements en milieu urbain. Et à Vichy, on a un barrage, donc
Ouais.
c'est pas.
Alors tu peux
Non,
peut-être développer un peu ça,
voilà.
parce que ceux qui
Voilà. Le
nous écoutent.
barrage, c'était le premier projet auquel le premier problème on s'attaquait, puisque dans l'Allier, il y a encore des saumons qui migrent. C'est la dernière grande rivière sauvage dans laquelle les saumons remontent.
Espèce
Le saumon
protégée, le
atlantique,
saumon.
oui, une espèce protégée. C'est le plus grand saumon du monde, hein. Il fait 6 000 km en rivière dans un sens, en tout, et 6 000 dans l'autre pour venir se reproduire. Donc c'était un enjeu important. Or, il est extrêmement menacé par tout un tas de choses, et notamment le barrage de Vichy n'était pas satisfaisant en termes de
Alors,
transparence.
historiquement, justement, le barrage de Vichy, qui à l'époque était un barrage à aiguilles, c'est ça?
Barrage à aiguilles du temps de Napoléon III,
Ouais.
puis devenu en 1960, avec une extension du plan d'eau, un pont-barrage avec des vannes qui se lèvent, avec une dénivellation de plus de 5 mètres,
Voilà,
des
ok.
passes à poissons faites à l'époque, mais qui d'une part n'étaient pas très confortables, mais d'autre part étaient devenues relativement inaccessibles à cause de l'enfoncement de la rivière,
Ah,
qui
la
avait pro
chenalisation en
la
aval du barrage?
chenalisation et l'extraction des granulats,
Ah, oui,
qui ont
d'accord.
abouti à l'enfoncement du lit au pied du
En aval du
barrage.
barrage, pour le
Voilà,
coup,
ce qui a
d'accord.
généré 1,50 m de plus à franchir pour les saumons, et les pieds de la passe étaient 1,50 m trop haut,
Ah oui,
tout
d'accord,
simplement.
ok.
Donc tout le monde était content de venir voir chaque année les saumons essayer
De
de sauter le
sauter, mais il n'y
barrage,
a rien dans la
s'abîmer sur le
passe.
béton, etc. Ce qui était une catastrophe. Et c'est un des premiers projets dont je me suis occupé, à la demande du maire, Claude Malhuret, qui m'a dit à l'époque, voilà, on ne peut pas laisser ça. Alors la ville perdait des procès chaque année, quelques milliers d'euros, ce qui n'était pas un problème. Mais lui, il a estimé que c'était un enjeu important, et donc on a réussi avec la discussion avec tous les spécialistes, puis des financements, à réaliser en 95 de nouvelles passes à poissons, avec, comme tu l'as vu, un observatoire des poissons migrateurs, qui est une partie scientifique qui permet de les observer, de les compter, etc., et une partie publique, puisque les gens peuvent venir voir derrière les grandes vitres les poissons qui passent, pas seulement les saumons d'ailleurs, parce qu'il y a tous les poissons de l'Allier, puis il y a d'autres migrateurs comme les aloses.
D'accord. Voilà. Donc là, en gros, on touche un point un peu sensible, c'est la qualité écologique, le statut écologique de la rivière Allier qui est censé s'améliorer.
Donc, Tout à fait.
Voilà, avec une renaturation aussi des berges le long du plan d'eau, une première partie qui a été livrée en 2014 et là qui vient d'être livrée en 2019. En rive gauche.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça m'a posé toujours quelques questions quand j'avais des réunions avec des associations environnementales, avec ma casquette directeur d'urbanisme, alors que j'étais président d'une association qui s'appelle Allier Sauvage, et qu'on me regardait d'un drôle d'air avec mon barrage à Vichy. Et j'ai toujours commencé mes réunions en disant, bon, est-ce que quelqu'un veut qu'on parle de l'effacement du barrage de Vichy? Et comme personne ne disait un mot, je disais, bon, ben, on va considérer qu'il est là pendant 25 ou 30 ans, mais on va essayer de faire mieux. Donc, les passes à poissons, donc la renaturation des berges, un programme de recherche, comme tu le sais, très important, qui a permis d'améliorer la gestion de l'ouvrage, etc.
Ouais, des pratiques aussi au niveau de la gestion du plan d'eau, avec donc le curage du plan d'eau et les limons qui sont retournés.
Et d'ailleurs, de constater que ces impacts réels sont bien moindres de ce qu'on pouvait craindre.
D'accord. Alors,
parce qu'en fait, c'est pas un vrai barrage, puisqu'il s'efface, il n'est pas très très haut, et en fait, il a un impact sur la rivière, sur une zone très très courte, en fait.
D'accord.
Donc, c'est pas une catastrophe non plus. Okay. Il n'y a qu'en termes de franchissement par les espèces que c'est un problème.
D'accord, ok, pour comme le saumon.
Voilà.
D'accord. Donc, on va. Alors là, bon, Vichy, d'accord, mais là, ce qui nous intéresse aussi, c'est la partie davantage sauvage. En sauvage, la Allier sauvage,
Qui
est un peu plus loin.
Sachant que c'est très complémentaire, c'est-à-dire que mes convictions en tant que directeur de Manus Vichy et de président de l'association Allier sauvage sont absolument concordantes. Je crois qu'il est tout aussi important de mettre en valeur la rivière dans la ville, en sachant qu'en termes de vie naturelle, ça ne sera pas l'idéal, parce qu'on ne peut pas laisser recréer une dynamique fluviale avec une rivière qui grignote le golfe, l'hippodrome, etc. Donc on est bien obligé de stabiliser les berges. Donc les interventions environnementales qu'on fait, elles ont leurs limites si on garde la ville. Mais par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que ramener des populations au bord de l'eau, faire regarder l'eau, c'est gagnant pour le reste de la rivière si on veut la protéger, très probablement. Et en plus, il vaut mieux focaliser la fréquentation de la rivière en milieu urbain que de l'étendre un peu partout et de standardiser le milieu.
D'accord, donc ça c'est une approche. En gros, c'est un peu ce qui se passe sur le Puy-de-Dôme, c'est-à-dire qu'on essaie d'aménager un espace pour préserver des grands sites, quoi, donc une échelle beaucoup plus large. Quoi.
Tout à fait, c'est l'éternel problème de la gestion du milieu naturel avec la fréquentation qui est d'un
dosage, du dosage de l'accès à la nature.
Et donc en fait, c'est en venant à Vichy, j'ai donc redécouvert l'Allier, je suis retourné à Moulins, j'ai revu, etc. Et j'ai vu que des bonnes choses et des mauvaises. Les bonnes choses, c'est que la dépollution de la rivière était en cours. Les efforts successifs, des nouvelles stations d'épuration, etc., avaient donné leurs fruits. Et l'eau était redevenue d'une qualité suffisante, à tel point qu'on a pu réouvrir la baignade à Vichy, d'ailleurs.
C'était une
grande nouveauté. Et par contre, on a pu constater que les pressions, qui étaient un peu catastrophiques, continuaient d'avancer, notamment la destruction des prairies, du bocage au profit de l'agriculture intensive, du maïs irrigué, et puis un début de montée en puissance d'une fréquentation de loisirs, de sport et de loisirs de nature, dont on pouvait craindre qu'elle atteigne qu'elle dégrade petit à petit le milieu. Ce qui est le cas.
Oui, encore aujourd'hui.
Voilà. C'est en prenant conscience de tout ça qu'avec quelques personnes, on a créé l'association Allier Sauvage.
Alors, quelle année ?
2006.
2006, d'accord.
Et notre but était au départ de protéger la partie la plus préservée de l'Allier de Plaine, qui se situe en gros entre Moulins et Nevers, et plus précisément entre Villeneuve-sur-Allier et le Bec d'Allier. Il y a 40 km de rivières qui sont assez préservées, notamment parce que c'est loin des villes, loin des routes, et puis parce que le modèle agricole est resté assez traditionnel. Voilà. Et donc, notre objectif, c'était ça au début.
D'accord.
Et puis, en fait, les élus du coin, même certains élus, nous ont dit deux choses. Ils ont dit, il faut vous occuper de toute la rivière. Et ils avaient raison, parce que travailler sur une partie, c'est plus facile si on travaille sur l'ensemble de la rivière. Surtout si on croit qu'il y a des différences et qu'il ne faut pas travailler de façon uniforme. Et puis, la deuxième chose, ils ont dit, plutôt que de créer une association ex nihilo, reprenez donc une association qui s'appelait ADA, Association de Défense de l'Allier, et qui avait réussi dans les années 70-80 à faire capoter deux projets de barrage, notamment un projet de barrage au Veurdre. Alors il y avait tout un mouvement associatif. qui d'ailleurs, et c'est intéressant, comme c'était l'époque où on s'enchaînait aux grilles des ponts pour manifester, c'était l'ambiance Larzac, en fait, il y a un ministre, quand il a été élu, c'est Michel Barnier, qui a sonné la fin de la récré, en disant « Non, on discute plus comme ça à coup de manifestations et de projets bétonneurs, on se met autour de la table. » Et ça a donné le plan Loire. Et le premier plan Loire, grandeur nature, consistait justement à réunir tous les acteurs pour réfléchir à définir les orientations. Et c'est quelque chose d'extraordinaire puisque ça se passe sur l'ensemble du bassin de la Loire.
Voilà. D'accord, ok.
Et donc on a créé Alliés Sauvages, en reprenant cette association LADA. On a réuni des anciens, on s'est fait élire et on leur a expliqué qu'on ne s'appelle plus Association de Défense à notre époque et que Alliés Sauvages, pour nous, c'est un manifeste. On veut que l'allié reste le plus sauvage possible. Mais avec une particularité par rapport à nos collègues d'autres associations, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est les rapports de l'homme avec la rivière. Ce que personne n'étudie en général, on étudie les oiseaux, les paysages, très bien. Mais les rapports de l'homme et la rivière, voilà. C'est-à-dire un allié vivant. Nous, on prêche pour un allié vivant, basé sur la préservation de ses valeurs naturelles le plus possible, mais où l'homme ait une place, mais qui soit une place
d'équilibre,
visiteur, et non pas de propriétaire.
D'accord.
De contemplative, voilà. Avec une priorité en plus à la vie locale, parce qu'on estime que si on veut protéger une rivière, il faut absolument que les populations riveraines en soient convaincues. Donc il faut qu'ils aiment leur rivière.
Il faut qu'ils sachent qu'ils puissent y baigner, qu'ils
boivent de l'eau, etc. Et en plus, il y a une autre affirmation qu'on a, c'est qu'on prône beaucoup le fait d'aider le milieu rural à rester vivant, donc des populations habitées. Et nous, on pense qu'il faut que une des seules choses qu'ils ont un peu originales dans ce territoire, qui est cette rivière Allier, qui est absolument exceptionnelle à l'échelle européenne, faut que ça soit, c'est eux qui doivent avoir la priorité. Donc sous réserve, évidemment, de se comporter bien et de ne pas y aller en quad. Voilà. Ce qui n'est pas si simple.
D'accord. Il y a des points un peu remarquables qui sont connus. Tu me parlais d'Apremont.
Oui, il y a des endroits connus, oui, bien sûr. Le village d'Apremont, qui est à l'extrémité nord, pas loin du bec d'Allier, qui est un village très préservé, qui est juste au bord de la rivière Allier, est un petit bijou qui, évidemment, a une attractivité touristique forte.
Ouais, carte postale, quoi.
Ah oui, bien sûr. Bon, c'est un endroit exceptionnel, bien sûr.
D'accord. Donc, après, pour gérer des endroits comme ça, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça pourrait se passer, entre guillemets, avec...
Tout le problème, justement, c'est la montée en puissance d'un tourisme, d'une forme de tourisme consommation. C'est-à-dire que tant qu'on est sur un tourisme soit de proximité, qui donc est limité puisque la population n'est pas énorme dans le secteur, et un tourisme de visite qui est basé sur l'excellence, on n'a pas trop de problèmes. Dès lors qu'on installe des activités commerciales qui, elles, ont besoin de faire de la masse pour faire du chiffre, là, les ennuis commencent. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on s'est intéressé assez tôt au développement de l'activité canoë-kayak. Non pas qu'elle soit trop importante pour le moment, mais à cause de son potentiel développement.
D'accord.
Puisqu'on connaît d'autres rivières, on connaît les catastrophes subies par d'autres rivières. Et chez nous, justement, c'est l'actualité, la catastrophe est en passe d'arriver, puisque cet été, il y a une société basée en Ardèche qui a essayé de racheter un des deux loueurs un peu artisanaux qu'il y a sur la rivière. Et s'ils l'avaient réussi, ils amenaient 500 canoës et 3 autocars. Et là, c'est plus la même chose.
D'accord, ouais. Voilà. Avec un impact sur les berges, sur
un
la vie sauvage,
sur la vie faune, c'est sûr, ouais. Avec les oiseaux nicheurs, hein, les sternes, les sternes naines, les oedicnèmes, enfin tous ces oiseaux un peu particuliers qui se reproduisent ici, et puis un impact sur la qualité du milieu, y compris en termes d'accueil. D'ailleurs, ça change tout.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on passe d'un milieu naturel contemplé, visité et contemplé, à un milieu ludique. Et
d'accord.
Ça, c'est plus du tout pareil. On en fait un parc d'attractions.
D'accord. Ça m'amène aussi à parler de la Via Allier, enfin tout le projet qui consiste à alors si ce n'est à reproduire, en tout cas s'inspirer de ce qui s'est fait sur la Loire avec une piste cyclable, ramener les gens à voir et puis à vivre un itinéraire depuis la source de l'Allier jusqu'à son embouchure vers Nevers. Voilà, comment est-ce que l'association se positionne par rapport à ça? Est-ce que ça reste des mots doux, ça reste, mais bon, comment est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire, quoi?
Alors, c'est bizarrement, nous faisons partie des gens qui ont été à l'origine de ce projet.
D'accord.
Mais nous, on l'avait appelé Route de l'Allier, et l'idée, alors le mot route n'était pas très heureux, mais on n'en avait pas d'autre, l'idée, c'était pas du tout de rechercher une infrastructure en site propre le long de la rivière. C'était de mettre en synergie différents modes d'itinérance, évidemment avec des endroits où on est le long de la rivière et d'autres pas, etc. C'était un concept de réseau, on va dire. D'accord. C'est devenu, dans les années 2000, fin des années 2000, un projet régional confié à un bureau d'études routiers. Trouvez-nous un itinéraire le plus près possible de l'eau tout le long de la rivière. Auquel on s'est opposé, là, pour le coup, parce que ça revenait à ouvrir le milieu, beaucoup trop. Parce que ce qui en fait la richesse, c'est justement qu'il n'est pas si accessible que ça dans certaines parties. Et qu'en plus, la capacité de morphodynamique de la rivière, c'est-à-dire le fait de grignoter ses berges et de changer son lit de place de temps en temps,
c'est incompatible avec
la notion d'espace de liberté est incompatible avec une infrastructure qui est trop proche.
Donc là, on parle bien du tronçon après Moulin, enfin 40 km après Moulin, jusqu'à l'embouchure.
Oui, mais c'est vrai dans la réserve naturelle au nord de Moulin, au sud de Moulin aussi. Hein.
D'accord, ok.
Il y a des endroits. Et quand les élus ont imaginé ensuite de faire ça en s'inspirant de la vallée de la Loire, c'est un mythe. Parce que sur la vallée de la Loire, il y a deux choses très différentes. D'abord, il y a des digues, avec des chemins sur digues, des chemins de halage, donc c'est pas du tout la même chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans les châteaux de la Loire, où il y a une grande capacité d'hébergement, un vrai potentiel touristique, etc. D'accord. C'est absolument pas le cas de notre territoire. D'accord. Donc ça n'a pas de sens de projeter la même chose. En revanche, et ça c'est tout l'intérêt du projet Via Alliée, puisque le projet a depuis étudié, eh bien, la Via Alliée, elle se fait sur Vichy en milieu urbain et c'est très bien. Elle se fait dans le Grand Clermont aussi et c'est très bien. Après, la question de réunir les portions entre elles est tout à fait une bonne idée. La question, c'est que ça s'appelle une véloroute voie verte et non pas seulement voie verte. Et qu'il est évident que investir et gérer une voie verte, ce qui est quand même assez coûteux, ça a un sens en milieu urbain. Parce qu'on a les moyens, parce qu'il y a une fréquentation objective entre la vie locale, même le domicile travail, des visiteurs, des touristes, etc., qui aboutit à une fréquentation qui a un intérêt, du sens. Ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux faire des pistes cyclables intelligentes, quitte à avoir des chemins de promenade à pied au bord de la rivière. Et voilà, en fait, c'est ça. L'idée, c'est comment on optimise les situations par rapport à cette idée d'itinérance. Voilà, donc tout le monde travaille en ce moment sur ces questions. Et notre association a cette position de dire ne faisons pas partout la même chose, même si on cherche une continuité d'itinéraire.
Il faut adapter le modèle.
Il faut adapter le modèle. Je te donne un exemple. On a dit depuis longtemps que quand il y avait une zone très très préservée d'un côté d'une rivière avec des oiseaux, etc., il valait mieux passer en face. Quitte à mettre des webcams ou des histoires de voir le balbuzard pêcheur rare, il ne faut pas passer au pied de l'arbre où il est parce qu'autrement, il va partir. Donc voilà, c'est toute cette logique de contemplation de la rivière qui est intéressante.
Est-ce que toute cette démarche, elle est compatible avec le réseau Natura 2000 dont la vie fait partie, quoi?
Donc, absolument.
Directive oiseau, directive habitat.
Bien sûr.
Est-ce que c'est compatible par rapport aux objectifs, aux DOCOB, etc.?
C'est compatible dès lors qu'on prend les précautions nécessaires et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Parce que le grand drame des institutions pour lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est de développer des modèles standards et d'aboutir à une certaine banalisation. D'accord. Alors derrière, il y a des belles idées égalitaristes, etc., mais il y a surtout une paresse intellectuelle, sans doute, et puis, quand on a donné à une commune telle chose, il n'y a pas de raison qu'on ne le donne pas à l'autre. La question se pose, par exemple, sur la nature des sols d'une voie verte comme ça. Il est évident qu'en milieu urbain où il y a beaucoup de fréquentation, on est sans doute obligé de passer par des bétons désactivés à certains endroits, parce qu'autrement, c'est ingérable. Mais il est tout aussi évident que dès qu'on s'en éloigne, il faut des sols perméables, des largeurs moins grandes, etc. C'est une évidence.
Sauf que
n'importe quel service des routes du département, du Puy-de-Dôme ou de l'Allier à qui on confie le projet, va dire il faut 3 ou 4 mètres de large partout avec le même profil.
C'est
et
normé.
Le même...
C'est la norme.
Voilà. Et ça, c'est complètement absurde dans un milieu naturel.
D'accord, ok. Tu avais commencé à évoquer la problématique tout à l'heure, c'est tout ce qui est modèle agricole. Parce que là, on le répète depuis tout à l'heure, c'est que c'est toute la problématique de l'Allier est liée aussi à cette notion de bassin versant, comme toute la rivière. Mais pour le coup, au niveau de l'Allier, avec surtout dans son régime de plaine, où il y a des divagations, on est sur une plaine, donc tout ce qui est problématique de maïsiculture, de diversification, qui s'oppose à la polyculture, qui est le modèle que vous défendez. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, là,
oui,
le
bien
rapport
sûr.
Que vous entretenez justement avec le modèle agricole, quoi. Qu'est-ce que vous défendez, quoi?
Alors, nous, ce qu'on défend, là encore, c'est de ne pas faire partout la même chose. On a, nous, repéré dès le départ deux sections qui nous intéressent. C'est la section dite métropolitaine, au pied de Clermont, la Limagne, où là, la vocation est clairement céréalière depuis longtemps, et où, en plus, il y a un acteur très fort qui s'appelle Limagrin, qui est une coopérative qui réunit 1200... Et on est dans l'agro-industrie. Donc, on a un partenaire fort.
Ça peut paraître un peu antinomique pour certaines personnes. Quoi.
Certains petits copains de nos associations nous disent « Mais tu discutes avec le diable. » Mais évidemment, puisque pour eux, le diable, c'est nous. Donc, on discute entre diables, et l'idée, c'est de faire... Moi, j'ai toujours dans cette idée d'améliorer les choses. Et le grand avantage d'un groupe comme l'Imagrin, c'est que le jour, 1200 adhérents, hein, le jour où on bouge le curseur d'une certaine pratique dans le bon sens de 5 ou 10 degrés, ben, c'est 1200 agriculteurs d'un coup. Et ça, c'est, voilà. Et en plus, c'est des gens qui travaillent sur le long terme, donc ils savent très bien qu'à un moment, il faudra qu'ils changent de pratique. C'est beaucoup plus compliqué avec les chambres d'agriculture, qui sont en général enferrées sous pression de la FNSEA, des philosophies de la PAC, de la politique agricole commune, et qui est pilotée par les grands céréaliers, les chimistes, etc., et les agro, et les industriels de l'agroalimentaire. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, nous, on a repéré cette section-là où on travaille, et l'autre, que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la section au nord de l'Allier, qui, elle, est encore protégée, qu'on essaye de défendre. Et c'est très, très compliqué. Alors, entre les deux, on ne s'y attaque pas pour le moment, parce que là, le maïs a pris la place, donc remembrement, disparition des haies, des arbres,
irrigation,
on retourne, on met des intrants, on pompe l'eau de la rivière, etc. Ça a d'ailleurs posé un énorme problème cet été, et on est en train de voir la faillite du modèle au niveau de l'eau.
On ferme le robinet.
Bah, la période de sécheresse de cet été, elle a été saignante. Et donc, on voit bien que les problèmes commencent à arriver. Mais nous, pour le moment, on ne s'y attaque pas trop, parce que là, c'est trop compliqué, y a des gens trop puissants. Et en plus, il y a un contrat dans cette partie-là entre une réserve naturelle, gérée par les associations environnementales et le PIOSEN, et les parties purement maïs. Et les réserves, le problème, c'est ça, c'est que dans la réserve, tout se passe bien, sauf que par définition, à côté, on peut faire n'importe quoi. Donc, c'est le piège des réserves. Voilà. Donc, nous, on se concentre sur la partie nord, en ce moment, où là, on a réuni un collectif de 7 associations, dont 3 associations d'agriculteurs, agriculteurs bio, agriculteurs durables, etc. Mmh. Et on discute. Et à cette occasion, on a attaqué une décision de la préfecture de la Nièvre qui a autorisé à nouveau le retournement de 55 hectares de prairies qui sont pourtant classées permanentes sensibles au titre de la PAC et qui sont sur 3 zones Natura 2000. Là, on est dans n'importe quoi. Et on a attaqué, on vient d'obtenir la suspension à nouveau. Et donc, l'affaire continue, on est en appel, etc. Mais on voit bien qu'il y a des pressions derrière et que c'est compliqué. Mais on lâchera pas et je pense qu'on gagnera, j'espère.
C'est intéressant, mais là, ce qu'on voit aussi, ce qu'on touche du doigt, c'est aussi la mise en réseau des acteurs.
Voilà.
Pour faire des parallèles avec d'autres territoires, est-ce que c'est justement cette dynamique justement de défense du territoire, essayer de créer une sorte d'émulation autour du territoire, de vouloir le faire aller dans le bon sens, avec une vision intégrative justement, à la fois quelque chose de central qui est la rivière et qui est la base de réflexion vraiment à la très large échelle. Est-ce que ce serait pas on avait déjà discuté, la base pour quelque chose de plus grand, un syndicat
bien sûr.
Type PNR ou
bien sûr, et il y a déjà eu un projet de parc national.
Ah oui.
Naturel
parce
humide,
plus loin, quoi.
Qui va beaucoup plus loin sur toute justement cette partie du Val d'Allier préservée. Alors c'est intéressant de souligner que pourquoi sur le Val d'Allier Nord on trouve des associations et il y en a une quinzaine intéressantes, on en a 7 avec nous, c'est justement parce que l'Allier est encore vivant et que les gens vivent dessus. Ce contexte associatif, on ne le trouve plus ailleurs. On le trouve avec des associations institutionnelles, les conservatoires d'espaces naturels, mais qui sont financés indirectement par des fonds publics, c'est la taxe. Mais des vraies associations qui travaillent, soit sur la bétellerie, soit sur les traditions, soit sur l'agriculture, sur le vignoble, etc. Et c'est là-bas qu'on les trouve.
C'est la question de terroir et de patrimoine.
Voilà, exactement. Donc on a la chance d'avoir une partie qui est préservée, y compris au niveau des valeurs humaines. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement de protéger, en espérant que si on arrive à le protéger, on pourra ensuite, en faisant tâche d'huile, reconquérir peut-être certaines parties de l'Allier qui, pour le moment, sont très sinistrées avec l'agriculture intensive et l'extraction de granulats.
D'accord, donc c'est vraiment on est sur la notion de culturel, l'Allier culturel, et en même temps que l'Allier naturel.
L'idée,
donc,
c'est vraiment
d'un. Les deux ne s'opposent pas, quoi.
C'est d'insuffler une nouvelle culture Allier.
D'accord.
Parce qu'on n'est plus au 19e siècle. Cette valeur qui a été perdue, en tout cas pour certaines populations, elle est en train de revenir. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à la conserver et à la valoriser de façon intelligente.
D'accord, ok. Donc, dans l'avenir, là, l'Allier sauvage, on risque de le voir. On risque de voir l'association où, quand, comment.
Alors, il est question qu'on travaille pour le pôle métropolitain, justement.
D'accord.
Et notamment sur les questions des fréquentations, parce qu'on a mis au point, nous, déjà des méthodes d'évaluation de la fréquentation et de la pression exercée. Pour résumer, on observe les traces laissées en fin de saison.
C'est
un protocole pour dresser un baromètre. Et puis, on a une méthode spécifique sur les canoës qui consiste à utiliser des appareils de photos, prise de vue automatique toutes les deux minutes, reconnaissance de forme, sélection des vues, et là on sait plein de choses sur le nombre de bateaux, le nombre de gens, etc.
D'accord,
etc.
Okay.
Et ça nous semble, et ça alimente
un projet, quoi, hein.
Voilà, un projet sur lequel on milite depuis longtemps, c'est la mise en place d'un observatoire de l'Allier.
D'accord.
Qui rassemblerait tous les types de données sur l'eau, sur les sols, sur la biodiversité, sur la fréquentation.
D'accord.
De manière à ce qu'on puisse avoir un outil de gestion plus efficace que ce qu'on a actuellement.
Et qui serait basé où?
Ben, la base, c'est virtuel, hein, donc la
oui,
base,
d'accord, okay.
C'est pareil, le siège pourrait être très bien être à Vichy d'ailleurs, moi
ouais.
C'est ce que je crois le meilleur emplacement, notamment parce qu'il y a un volet grand public et que Vichy est un site d'accueil sur l'Allier comme
c'est
il n'y en a pas d'autre.
C'est le trait d'union.
C'est un trait d'union, voilà, entre le Puy-de-Dôme et l'Allier, c'est au centre de l'Allier aval, et puis c'est une ville où les gens viennent naturellement se promener d'un peu toutes les régions autour, donc ça serait pertinent. Mais la vraie question après, c'est... comment on organise le rassemblement des données. Et là, l'idée, c'est qu'en termes de bancarisation intelligente des données, ce qui n'existe pas pour le moment, on a la chance d'avoir à l'Université Clermont-Auvergne, le Mésocentre, qui travaille actuellement sur un cloud environnemental et qui serait prêt à héberger la banque de données Allier. Donc voilà. Et le projet a été fait dans le cadre du pôle métropolitain. Maintenant, on en connaît le modèle, on connaît tous les acteurs sont d'accord sur le principe. Maintenant, il faut passer à l'acte politique de le créer.
D'accord.
Et ça rejoint ta question sur l'idée d'organiser une gouvernance de la rivière qui n'existe pas bien pour le moment parce qu'il y a un sage allié à Val, mais qui est limité dans sa portée. Et donc, on pense qu'il faudrait aller plus loin, peut-être créer un établissement public spécifique de l'Allier. Et à ce moment-là, l'Observatoire de l'Allier, ce serait tout simplement un outil de gestion et de communication.
D'accord, ok. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. On pourrait encore en discuter des heures.
Certainement,
mais... ouais.
Des années.
Des années, bah, espérons. Voilà. Donc, bah, merci Joël pour avoir passé un peu de temps avec nous. Si les gens ont des questions, je vais mettre en bas de la page
l'adresse
d'Allier Sauvage, où il y aura tous les contacts.
Voilà. Alors, il y a un site qui malheureusement n'est pas à jour à beaucoup de points de vue, qu'il va falloir qu'on refasse, mais la rubrique association est à jour et la rubrique actualité est à jour. On y met les derniers échos justement de toutes ces affaires complexes.
D'accord.
J'ai oublié de dire que dans toutes les activités, tu l'as compris, on a des activités scientifiques,
oui.
On fait du lobbying comme les autres,
bien sûr,
mais on fait aussi,
normal.
On valorise, on a des activités culturelles,
oui.
On valorise des découvertes archéologiques.
D'accord.
Par exemple, tout ça, c'est tout ce qui peut enrichir cette culture alliée et donner de l'intérêt à des gens, à des populations locales, de manière à ce qu'ils aient envie de préserver cette belle rivière complètement rare à l'échelle européenne.
Ok, bon, merci Joël.
Je t'en prie, merci beaucoup.